émission Une Commune et Loco sur Bocage 46.5. Je suis Sineko. Edris Mahama Kosso, un étudiant tchadien, a déclaré « La ténacité, le courage, la vérité, l'ardeur et le dévouement forment l'humanisme. » Mon pays est reconnu pour être le pays des Lumières. Nos ancêtres, les plus illustres, ont légué les fonctionnements de l'humanisme. Notre invité de ce matin est Julien Lucco, l'association Vitesse, dont justement l'humanisme et leur ADN. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors déjà, est-ce que vous pourriez en présenter un petit peu Vitesse, s'il vous plaît?
Oui, merci de m'avoir invité. Donc, Viltaïs est un acteur engagé dans le champ de l'économie sociale et solidaire, qui aujourd'hui donc regroupe près de 300 collaborateurs, et on intervient sur 26 départements et 5 régions. Donc, notre association a beaucoup évolué, puisqu'au départ, historiquement, nous étions implantés que dans l'Allier et plus spécifiquement sur Moulins. Et au gré d'une adaptation aussi à différentes sollicitations, aux besoins nouveaux des personnes que l'on accompagne, notre activité s'est diversifiée pour aujourd'hui répondre à différents champs, que ce soit celui de l'habitat, le logement des jeunes, la partie de restauration, la partie réinsertion sociale de publics en grande fragilité. Nous gérons également des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et l'accueil de personnes réfugiées, et nous sommes aussi fortement engagés dans toutes les questions qui touchent à l'intégration professionnelle des personnes dont nous avons la charge, donc ces différents publics. Notre idée est de pouvoir être mobilisés sur tous les champs d'action, que ce soit au travers de la santé, du logement, de l'accompagnement social, mais également aussi du sport et de la culture. Donc c'est de venir en aide et en soutien pour que chacun retrouve un parcours de vie.
Alors comment est née cette association et pourquoi Viltaïs, on sait d'où ça vient ?
Alors, au départ, quand j'évoquais l'implantation historique, donc nous gérions le foyer de jeunes travailleurs, la résidence Anima qui est au Champin, et à cette époque-là, l'association s'appelait FJT+, donc l'abréviation de foyer de jeunes travailleurs. Et en 2006, suite à une première fusion avec une autre association locale de Moulins, nous avons souhaité donner une nouvelle appellation, et Viltaïs a été créé. Donc Viltaïs en tant que tel, les lettres n'ont pas forcément de signification ou ça ne correspond pas à une abréviation de quelque chose. C'était l'idée justement un petit peu de sortir des appellations plus classiques et de donner un élan. Alors dans Viltaïs, on peut entendre la vie, des choses aussi motrices. Donc et pour la petite histoire, donc l'agence de communication qu'on avait sollicitée pour nous accompagner dans cette nouvelle appellation et ce nouveau logo, donc l'infographiste s'appelait Vitaline. Donc est-ce qu'elle a voulu laisser aussi une empreinte, et ce nom pour nous sonnait bien. Il déclinait les valeurs un petit peu d'optimisme, de vie, d'engagement. Donc pour nous, ça sonnait bien.
Alors, vous avez tout à l'heure, vous ne rayonnez pas que sur l'Allier, vous rayonnez également sur d'autres départements aussi.
Oui, exactement. Alors j'évoquais 26 départements, et donc sur les régions, donc on est en Auvergne-Rhône-Alpes, en Nouvelle-Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire et en Bretagne. Donc ce développement géographique est surtout né à partir de 2017, puisque notre association, par choix aussi philosophique et humaniste, a souhaité s'engager dans des réponses autour de la crise migratoire, donc par la création de centres d'accueil demandeurs d'asile, des dispositifs d'accueil de personnes réfugiées, et l'ampleur de cette crise migratoire a fait que Viltaïs a pu se développer suite à des sollicitations, notamment des services de l'État, pour s'implanter dans des nouveaux départements.
Alors, justement, comment vous avez fait pour rayonner autant Viltaïs ? Parce que là, vous êtes plus une petite association, vous êtes une grande association maintenant, très grande même.
Alors oui, le développement est indéniable. L'idée a toujours été de pouvoir analyser une opportunité, une sollicitation. Et c'est vrai qu'on aime à dire c'est de faire gagner aussi l'humanité. Donc si on est sollicité sur un nouveau territoire, Donc cette logique est venue aussi avec, nous répondons à des appels à projets, et ces appels à projets sont souvent aussi régionaux. Donc on a commencé un développement sur des départements limitrophes à l'Allier, et au gré de certaines rencontres et à l'échelle aussi de différents ministères, notre savoir-faire a pu être reconnu. Puisqu'on attache une grande importance aussi au développement de territoire et notamment en zone rurale où des opérateurs sont moins enclins à aller parce que effectivement il faut travailler d'une manière différente en milieu rural. Mais pour nous, on a vraiment cette croyance dans ce type de développement. Donc ce qui a fait que cette approche, ce savoir-faire a été aussi repéré au niveau des instances ministérielles, et du coup on a pu saisir des opportunités pour s'intégrer dans de nouveaux territoires.
Vous travaillez sur quels axes aujourd'hui ?
Alors, vous l'avez dit en introduction, l'ADN, c'est effectivement l'humanisme. Donc, c'est notre cœur de métier est vraiment la partie logement, hébergement de différents publics, qu'il s'agisse d'apprentis, d'étudiants, de personnes sans domicile fixe, de personnes en grande vulnérabilité ou fragilité, et également sur toute la partie des nouvelles populations qui arrivent en France par rapport à différentes problématiques. Donc effectivement, il peut s'agir de demandeurs d'asile et de personnes réfugiées. Et puis également, on a un travail très précis sur toutes les questions d'intégration professionnelle dans un contexte où effectivement beaucoup d'entreprises recherchent. Donc c'est aussi de se faire rencontrer les publics que nous pouvons accompagner, qui sont aussi en recherche d'emploi, et d'assurer cette médiation entre le monde de l'entreprise et un acteur du champ de l'économie sociale et solidaire qui peut vraiment apporter aussi sa plus-value, parce qu'un employeur n'a pas toujours le temps de s'occuper d'une problématique de logement, de mobilité. Donc on fait rencontrer nos deux secteurs d'intervention, et ça donne naissance à des très beaux parcours d'intégration professionnelle.
Oh, c'est mimi ça. C'est parfait. Quelle relation vous entretenez avec les professionnels sociaux ou médico-sociaux?
Alors, Vitalis travaille avec un large partenariat et avec différents acteurs, puisque nous, on peut être spécialisé dans un domaine, mais on a forcément besoin des autres acteurs, que ce soit dans le champ du handicap, de la santé, de la protection de l'enfance. Donc on entretient effectivement des partenariats très riches et très rapprochés, avec tout un ensemble d'un réseau sur chaque territoire où il est nécessaire pour qu'un parcours réussisse. C'est souvent grâce à la mobilisation de différents acteurs qui se concertent, qui travaillent ensemble, qui adaptent aussi leur mode d'intervention, et vraiment avec cette finalité. On disait l'ADN, c'est l'humanisme, et c'est aussi croire en chacun. Donc c'est d'amener une potentialité jusqu'à son plus haut niveau, et que chacun puisse retrouver son parcours de vie.
Vous avez ouvert, il n'y a pas très longtemps, il y a déjà quelques temps déjà, la ménagerie. Vous pouvez nous en parler ?
Effectivement, oui. Donc la ménagerie est un chantier d'insertion implanté sur Moulins et Montluçon, qui travaille autour de la récupération, rénovation et customisation de meubles. Donc c'est un projet à la fois qui permet à des personnes de retrouver un emploi, de retrouver un rythme de vie, une occasion de révéler leur savoir-faire, que ce soit dans le secteur de la menuiserie, de la logistique, de la couture, de la peinture. On touche tout un panel de métiers. Et c'est aussi s'engager dans du développement durable, dans de l'économie circulaire. Donc un projet à fort impact aussi écologique. Et nos deux ateliers boutiques sont installés donc en proximité de zones commerciales, donc avec cette idée de regrouper dans un même ensemble la partie de stockage, la partie atelier et la partie boutique, avec cette logique aussi commerciale, et de mettre en valeur le produit qui a été réhabilité. Donc on a du mobilier, on a des objets de décoration. C'est de donner vraiment toute cette valeur ajoutée à des meubles ou à des objets qui étaient plutôt destinés à finir en déchetterie.
Ah, très bien. Du côté des projets, quel projet vous aviez pour cette année, fin de cette année plutôt ?
C'est de poursuivre effectivement déjà l'ensemble de nos actions. On a aussi, on reste attentif vraiment aussi à l'évolution des besoins. On sait qu'au départ, le besoin des personnes que l'on pouvait accompagner était de trouver un toit, de trouver un hébergement, mais très vite apparaissent des nouveaux besoins, que ce soit en termes de santé. Donc on a aussi fait évoluer nos dispositifs. Donc on a une équipe de médiation en santé qui est chargée de renouer le lien entre les personnes qui ont pu à un moment délaisser effectivement cette partie médicale. Alors parfois, voilà, faute de médecin traitant, ou c'est aussi, voilà, il faut se mobiliser, il faut prendre soin de soi. Et souvent, les publics dont on a la charge peuvent délaisser cette partie-là. Donc on a renforcé un petit peu ces services pour que nos médiatrices santé aillent à la rencontre du public, aillent vers ces personnes, assurent aussi un transport, une mobilité et assurent vraiment ce lien avec le professionnel de santé. Donc ça, c'est un service qui nous tient à cœur et qu'on souhaite maintenir. On a également nos instituts de beauté solidaire, les salons Joséphine, qui sont pareil destinés à cette notion aussi de bien-être et pour favoriser aussi un retour à l'emploi. Donc c'est de proposer des prestations esthétiques et de coiffure à moindre coût à des personnes qui ne se l'autorisaient plus ou qui n'avaient jamais eu accès. Et on sait, voilà, pertinemment aussi que ça fait partie intégrante au même titre qu'un autre accès au droit, et que cet accès aussi à la beauté est un droit essentiel et pour nous qui compte beaucoup. Donc on reste attentif ou à aussi créer des équipes mobiles pour le maintien dans le logement, puisqu'une fois qu'une personne accède à un logement autonome, il faut aussi accompagner cette entrée, que ce soit par l'entretien du logement, la gestion budgétaire, le lien avec le voisinage. Donc on développe beaucoup cette démarche d'aller vers les publics. On a aussi créé nos maraudes, donc, qui permettent une rencontre avec le public qui peut être à la rue, qui ne connaît pas encore les dispositifs d'hébergement d'urgence ou qui souhaite au moins créer un premier lien. Et grâce à une de nos intervenantes qui a vraiment découvert aussi ce secteur-là, qui au départ a mis en place un peu son journal de bord de la maraude, et petit à petit ce travail s'est transformé en une vraie écriture avec des ateliers aussi avec des personnes à la rue. Et donc toute cette matière va donner naissance à un ouvrage intitulé Bonjour, puisque c'était le mot choisi aussi par les personnes qui disaient souvent du fait qu'on nous dise déjà bonjour, c'est un signe de reconnaissance pour nous et c'est important. Donc normalement au mois de novembre on aura un ouvrage pour connaître ce public à la rue que parfois tout à chacun peut croiser en train de faire la manche devant un magasin ou qui erre sur certains lieux de la ville. Et c'est derrière ces portraits, derrière ces femmes et ces hommes, de découvrir un petit peu ce qui a conduit à ce parcours, ce que ces personnes aiment et comment aussi on peut leur donner une autre visibilité aussi dans la société.
Quels sont leurs retours justement de ces maraudes? Qu'est-ce qu'ils disent, les gens?
Alors pour certains, ça peut répondre aussi à un choix de vie. On a beaucoup de personnes qui peuvent être de passage, qui ont développé un mode de vie un petit peu de ville en ville et pas forcément, qui ne souhaitent pas forcément entrer dans un dispositif d'hébergement. Et d'autres pour qui cette situation, elle survient un petit peu du jour au lendemain, qui se sentent un petit peu démunis et qui ne connaissent pas effectivement tout le réseau d'aide qui peut se mettre en place. Donc notre rôle est aussi de leur expliquer, de les accompagner pour un retour progressif, peut-être vers une structure d'hébergement, refaire ses papiers administratifs, refaire ce lien. Et puis c'est très positif vis-à-vis des personnes qui sont concernées, mais aussi des partenaires, je pense notamment aux urgences où certaines personnes à la rue pouvaient souvent solliciter les urgences ou rester parfois dans les salles d'attente. Donc on a vraiment mis en lien aussi un travail avec les médecins urgentistes, avec tout le personnel, pour faire connaître nos structures, faire connaître la maraude. Et du coup, ça a vraiment donné aussi ce travail de médiation, d'interconnaissance et parfois de décaler un petit peu sa vision des choses et de trouver aussi des réponses à certaines situations.
avec l'inflation, c'est tous les âges qui sont touchés ou les jeunes? Parce que très franchement, moi je vois beaucoup de jeunes et ça m'effraie très franchement.
Alors, on peut avoir effectivement une population plus jeune qui peut être concernée, puisqu'on bute toujours un petit peu dans l'écueil. On dit souvent, voilà, les moins de 25 ans, où il y a moins d'accès aussi de protection par un accès vers le RSA ou autre qui peut donner un minimum de ressources et de pouvoir aussi accéder à certaines choses. Donc, effectivement, la population jeune peut se retrouver un peu plus en public cible. Mais on a aussi, alors ça peut toucher autant les hommes que les femmes et parfois aussi sur un public un peu plus âgé. Donc sur le public jeune, on travaille aussi beaucoup en lien avec tous nos partenaires, hein, notamment aussi les missions locales pour essayer petit à petit de réamorcer un parcours. Mais il y a tout ce travail d'approche qui peut se faire aussi avec les services de prévention de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence pour repérer ces publics, instaurer un climat de confiance et essayer de réactiver une envie. Un parcours et de mettre en place vraiment. Mais c'est du sur-mesure, chaque situation est toujours très individuelle et on doit vraiment s'adapter aussi à chaque parcours.
Alors maintenant, on va changer de sujet, on va parler un petit peu de sport, et de sport mécanique en l'occurrence, de Teen Vitesse Racing. Où est-ce que ça en est?
Alors déjà pour repréciser, donc c'est vrai que depuis 2003, donc on va célébrer les 20 ans de ce projet-là, qui est un projet d'insertion par le sport où Viltaïs s'est engagé, donc au départ vraiment à partir d'une consultation des jeunes qui étaient hébergés sur le foyer de jeunes travailleurs en leur disant sur quoi vous aimeriez vous investir. Vous habitez ici, ok, vous avez votre projet professionnel, mais de manière collective, est-ce qu'il y a des sujets qui vous intéresseraient? Donc, sur cette tranche d'âge-là et dans les années 2000, effectivement, les sports mécaniques et les deux roues sont ressortis. Donc, on a vu qu'il y avait un intérêt et on a un peu pu découvrir qu'il y avait... À l'époque, donc c'était un championnat Auvergne-Rhône-Alpes et un championnat de France en 50 cm3, donc c'était des petites cylindrées, et avec des courses d'endurance, donc des courses qui pouvaient durer plusieurs heures sur différents circuits, et c'était très mobilisateur, donc, puisque vous avez besoin de pilotes, vous avez besoin de personnes qui s'occupent de la logistique, du chronométrage, de la mécanique, donc il y a vraiment une vie d'équipe, et le sentiment que chacun apporte sa contribution, se dépasser. Donc le projet a évolué au cours de ces 20 ans, et aujourd'hui on est engagé en championnat du monde d'endurance en 1000 cm3 et dans la catégorie la plus haute de l'endurance. Donc ça a vraiment évolué, on est effectivement sur un sport de haut niveau, mais qui associe toujours les valeurs d'insertion, d'intégration, et qui fait le pari de pouvoir insérer aussi des jeunes via ce support. Donc bien sûr une équipe aussi professionnelle qui encadre ces jeunes-là, mais sur chaque épreuve et chaque course, donc on a les courses de 24 heures dont deux se déroulent en France, donc les 24 heures du Mans, et le Bol d'Or, donc au Castellet. On a également une épreuve en Belgique, donc les 24 heures de Spa qui se dérouleront dans 15 jours, et un déplacement au Japon. Donc sur chaque épreuve, on a à peu près 30 personnes qui gravitent avec chacun ses compétences et chacun qui se met au service. Et cette année, on a effectivement changé de partenaire et de constructeur puisqu'on était depuis plus de 15 ans avec Yamaha et on a changé, donc on est aux couleurs de Honda. Ce projet s'est fait aussi et a évolué. Vraiment un lien, et ce concessionnaire a été très sensible à nos valeurs d'insertion et à tout ce qui était développé, et vraiment ce côté aussi humain, et que ça ne se résumait pas qu'à un sport, qu'à une compétition, mais que derrière ça, ça amenait aussi à des projets de vie, à révéler certaines vocations. Et puis, on a depuis maintenant pas mal d'années développé un certificat de qualification professionnelle via cette équipe moto, où des jeunes qui réalisent leur certificat dans un lycée de la Loire viennent faire leurs heures pratiques sur les compétitions. Tous obtiennent leur diplôme à l'issue et travaillent après au sein de concession et apportent aussi toute leur expertise pour préparer des motos différemment. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui permet le dépassement de soi, qui permet l'effort. Quand vous êtes voilà, sur une course de 24 heures, c'est un petit peu comme dans la vie. Vous savez pas, vous commencez à un moment, à l'instant T la course, vous ne savez pas dans 24 heures si vous serez toujours sur le circuit, qu'est-ce qui sera passé, mais comment voilà, chacun se mobilise, chacun reste concentré à sa tâche pour un objectif unique et final, de terminer l'épreuve et si possible en haut du classement.
Vitesse sur tous les supports, décidément, partout.
oui, c'est après c'est toujours l'idée d'être engagé, d'être actif, de susciter voilà l'envie d'innover, de s'adapter aussi. Et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter à notre niveau, de peut-être de différent, de le tenter, de l'expérimenter, d'oser, et de voir voilà, ce qui peut fonctionner. Et puis les valeurs du sport ou de la culture, parce qu'on pourrait aussi évoquer le festival de bande dessinée.
Oui.
C'est cette dimension collective, c'est se retrouver. C'est partager, c'est se faire rencontrer des publics qui peut-être dans la vie ne se seraient jamais croisés, d'ouvrir un petit peu son humanité aussi. Donc peu importe le support, ça peut être très très différent, mais ce qui compte voilà pour nous, c'est et puis cette part aussi de rêve, je pense, qui est importante dans la vie de tout à chacun, et peut-être encore plus sur des publics qui à un moment ont pu être fragilisés. Donc redonner espoir, redonner vie, c'est important pour nous.
Allez, vitesse au JO, au Tour de France, en automobile, on y croit. C'est ton jamais après tout.
Oui,
oui. C'est quoi être bénévole selon vous ?
Alors, bénévole, pour moi, c'est un moment où on a envie effectivement de donner, de rencontrer, de partager. Au final, voilà, la société a beaucoup évolué. On peut constater aussi parfois un repli sur soi ou d'autres formes de liens qui peuvent être parfois plus virtuels. Et pour moi, je pense que voilà, être bénévole, c'est se dire à un moment donné, peut-être qu'à un moment, j'ai plus de temps ou j'ai plus de chance dans ma vie que peut-être quelqu'un d'autre. Ou alors, je souhaite aussi partager. On est très sensible et on travaille beaucoup à ce que nos publics aussi accompagnés puissent devenir aussi bénévoles. Je pense notamment au public en demande d'asile ou public réfugié, où cette expérience du bénévolat, les motrices pour des fois se faire accepter ou se dire, quand on provoque et quand on suscite la rencontre, y a beaucoup d'appréhensions qui sont levées, et que c'est aussi se mettre dans une démarche active. Peut-être que tout de suite, voilà, la personne ne peut pas accéder à un emploi, n'a pas encore tous les codes sociaux ou les codes de la langue, et cette immersion, ça lui fait du bien, ça la valorise, et puis je pense que c'est toujours gratifiant voilà, de pouvoir offrir de son temps, de ses compétences au service de n'importe quelle cause. Donc c'est créer des ponts et des rencontres.
Comment rejoindre Vitaïs, enfin contacter Vitaïs ?
Alors, sur nos réseaux sociaux, on a notre page Vitaïs, on est présent sur l'ensemble des réseaux. Pour nous joindre, ça peut être sur notre siège, donc par mail à direction@vitaïs.eu ou par téléphone au 04 70 48 25 25.
Très bien. Merci de passer l'antenne de Bocage.
Merci à vous.
Quelque chose à ajouter, peut-être, un message à faire passer ?
Non, je vous remercie de l'invitation qui permet aussi de faire connaître encore Vitaïs sous ses différentes aussi facettes, et puis de se dire que nous c'est toujours une occasion de valoriser ce que l'on fait et puis d'y associer l'ensemble des salariés qui contribuent aussi chaque jour à donner d'eux-mêmes aussi pour que le monde aussi change, alors à notre niveau, mais
oui.
Très humblement, mais avec des belles choses qui se font.
Tout à fait. Encore merci de passer l'antenne du Bocage.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Pour rappel, je viens de recevoir Gilles Lecourt pour la session Vitaïs. Après, pour ce week-end, on se retrouve tout à l'heure pour les pages d'actualité locale, sans oublier celle des sorties de la semaine.